Vous écoutez RTL. RTL Matin.
Laissez-vous tenter.
Avec Yves Calvi.
Grand bonjour à vous, Pierre Lemaître.
Bonjour.
C'est toujours un grand plaisir de vous accueillir.
Ça, vous ne savez pas encore. Vous ne savez pas encore.
Je vous affirme que si. Bon. Si. Nous sommes bien d'accord avec mes petits camarades. De vous accueillir au micro de Laissez-vous tenter, vous signez donc Couleur de l'incendie chez Albin Michel. C'est la suite de Revoir là-haut, votre Goncourt 2013. Nous avons beaucoup aimé ce nouveau roman. Et ce n'est pas Bernard Lehu à nos côtés qui me démentira.
Sûrement pas.
Voilà. On offrira d'ailleurs tout à l'heure votre livre dédicacé au 3210 à nos auditeurs. Avec nous également ce matin, Stéphane Boutsock qui nous emmènera dans le Nord, où il a suivi la tournée de lancement triomphale de la prochaine comédie de Danny Boone, La Ch'tite Famille. Pierre Lemaître, Couleur du Temps, votre suite d'Au revoir là-haut, qu'on peut lire indépendamment du premier volume, je le précise, était-elle programmée dès le départ ou en avez-vous eu l'idée, je dirais, après le succès du Goncourt ?
Non, elle était programmée dès le départ. Je ne savais pas quelle suite serait la suite, mais dès la fin d'Au revoir là-haut, en 2012, j'avais déjà ouvert quelques portes pour une éventuelle suite. Et puis, je me suis vraiment posé la question au moment de commencer ce livre, Couleur de l'incendie, de savoir ce que j'allais faire. Je ne voulais pas faire Au revoir là-haut 2, le fils d'Au revoir là-haut, Au revoir là-haut fait du ski.
Oui, Au revoir là-haut ceux, par exemple.
Voilà, oui, c'est ça. Ça, j'y ai pas pensé, sinon peut-être j'aurais été tenté. Je me serais laissé tenter pour le coup.
Bernard Lehu, alors à vous la périlleuse mission de nous résumer les 530 pages palpitantes de Couleur de l'incendie.
Eh bien, pour qu'elles ne perdent rien de leur pouvoir de palpitation, justement, je vais en dire le moins possible, et ce n'est pas l'auteur qui va s'en plaindre, n'est-ce pas Pierre Lemaître ?
Absolument.
Alors, comme dans Au revoir là-haut, plus sérieusement, les premières pages de votre roman sont un morceau d'anthologie. On enterre Marcel Péricourt, le banquier génialement arnaqué par son fils Édouard, la gueule cassée de 1918, et Albert Maillard, son ami, les héros du livre précédent. La fille, Madeleine, s'apprête à reprendre la tête de la fortune familiale, mais un tragique coup de théâtre va faire dérailler le bon déroulement des obsèques. Et c'est le début d'une terrible machination qui va ruiner la pauvre Madeleine Péricourt. La suite du livre, eh bien, ce sera la vengeance de Madeleine contre tous ceux qui ont causé sa perte, une sublime Monte Cristo en jupon. Et Pierre Lemaître, je me disais que c'est d'abord ça, votre palpitant roman, un hommage à Alexandre Dumas.
Oui, tout à fait. J'essaye de mettre mes pas dans les pas du maître, alors modestement, à ma manière à moi, et puis avec une littérature d'aujourd'hui. Mais c'est vrai que j'ai été marqué, moi, étant enfant, par Alexandre Dumas. Il n'y a rien qui me plaisait plus que ces moments où Dumas dit « Le lecteur se souviendra sans doute que Edmond Dantès. » Enfin, j'adorais ces choses-là. Et donc, je m'amuse à les reproduire. En fait, j'essaie d'écrire les livres que j'aimais lorsque j'étais enfant. C'est ma manière à moi de rester jeune. Enfin, pas trop vieux. Quoi.
Alors, il y en a eu d'autres, de livres et d'auteurs, avec Dumas,
alors,
par exemple.
Alors oui, dans ce livre-là, ce livre-là est une sorte d'hommage au roman du 19e siècle. Il y a un petit peu de Balzac, puisque l'argent est le moteur de l'action, un peu comme dans Balzac. On a un petit peu de Hugo, on a un petit peu de Stendhal, avec un personnage qui s'appelle Delcourt. Enfin, je me suis amusé là à mettre quelques clés, mais qu'on peut aussi lire en toute liberté. Ceux qui connaissent les clés peuvent les découvrir avec plaisir, et ceux qui ne les connaissent pas n'en souffriront pas.
Vous avez cité Edmond Dantès il y a quelques instants. Le ressort romanesque le plus puissant avec l'amour, c'est évidemment la vengeance, non ?
Oui, tout à fait. La vengeance, l'amour, ça va ensemble, parce que l'amour, c'est souvent la désillusion, et la désillusion entraîne des désirs de vengeance. C'est beau ce que j'ai dit, c'est profond, n'est-ce pas ?
Il vous est arrivé, oui, on va voir là. Non, c'est peut-être moins beau.
Il va falloir que je réfléchisse.
Ce sera peut-être moins beau là maintenant. Vous, il vous est arrivé de vous venger.
Enfin, écoutez, je vais vous faire un aveu. Je suis incroyablement rancunier. J'ai même dans mon téléphone gardé le numéro de téléphone de gens dont je me dis, depuis 15 ans, 20 ans, ils ne m'ont pas appelé, mais si un jour ils m'appellent, je me souviendrai de tout ça. Vous voyez, c'est terrible. C'est, je crois, mon principal défaut, mais c'est un défaut incurable.
Alors, qui dit vengeance dit trahison, évidemment. Des traîtres, il y en a beaucoup dans ce roman. Quel est pour vous votre traître le plus délectable ou détestable ?
Dans ce roman ?
Oui.
Je les aime tous. Maintenant, ils m'ont apporté beaucoup de plaisir. La traîtrise est l'un des moteurs de cette intrigue. Alors, chacun a une trahison qui lui est propre. Il y a une trahison sentimentale, une trahison financière, une trahison amicale. Elles me plaisent toutes. J'ai pas de personnage préféré. Ce sont tous de très gentils salauds.
Alors, Couleur de l'incendie, c'est aussi un hommage au courage d'une femme, Madeleine, qui est finalement seule contre l'adversité et un véritable monde d'hommes, là, pour le coup.
Oui, absolument. C'est une femme qui est en proie aux hommes. C'est une femme femme qui dispose de deux pouvoirs, hein, le pouvoir de l'argent qui est normalement réservé aux hommes et le pouvoir du plaisir sexuel qui normalement est interdit aux femmes. Nous sommes dans les années 30, dans une période dans laquelle cette femme qui hérite d'un empire bancaire n'a même pas le droit de signer un chèque. Donc elle se trouve devant, dans une position très compliquée d'être une femme de pouvoir dans un moment dans lequel la femme n'a même pas le droit d'exister en tant qu'être humain, puisqu'au fond, pas le droit de vote, pas le droit d'ester en justice. Enfin, vraiment, la situation des femmes est absolument tragique au lendemain de cette Première Guerre mondiale.
Et alors, pourquoi avoir choisi pour cette suite, Yves l'a précisé, qu'on peut lire sans avoir lu Au revoir là-haut, pourquoi avoir choisi comme personnage principal de Couleur de l'incendie ce personnage de Madeleine Péricourt, qui était un personnage relativement secondaire
dans son évolution? Est-ce que vous le saviez, du coup, en écrivant le premier, ou est-ce que vous l'avez vu apparaître, si je puis dire, à la fin de l'écriture du premier roman?
Non, je ne l'ai pas vu venir. Je cherchais, en fait, ce qu'il va y avoir dans cette trilogie, c'est que chaque livre va prendre pour personnage principal un personnage secondaire d'un livre précédent. Je ne voulais pas être dans une saga mécanique dans laquelle on suit les générations les unes après les autres. Donc je vais chercher un personnage secondaire. Donc j'ai regardé Au revoir là-haut avec un œil neuf en me disant quel personnage secondaire.
Ah oui, alors c'est intéressant, vous l'avez relu? Pour
je l'ai feuilleté,
suite.
Je l'ai feuilleté. Oui, oui. Je l'ai feuilleté et j'ai cherché, j'ai trouvé plein de personnages qui étaient amusants, qui étaient simplement de passage, mais qui avaient ce que j'appellerais un bon potentiel narratif. Il y a des choses à raconter.
Puisqu'on en est au potentiel narratif, est-ce qu'éventuellement le film et son succès vous ont aidé aussi dans l'évolution du second tome?
Je suis bien obligé de dire que je dois encore ça aussi à Albert Dupontel, c'est qu'il a eu la très bonne idée de mettre dans le casting Émilie Dequesne dans le rôle de Madeleine. Oui. Et comme j'écrivais le livre pendant qu'il préparait le film, je n'ai pas pu m'empêcher d'avoir en permanence cette actrice sous les yeux, ce qui a été vraiment une aide pour l'écriture, parce que quand vous savez comment incarner votre personnage, c'est plus simple.
Oui, elle a un visage, une âme, elle existe et vous avez envie de...
Absolument, elle est merveilleuse.
Ah oui, c'est beau, ce mariage, ces influences réciproques entre le cinéaste et l'écrivain.
Ah oui, c'était un très joli moment.
Alors, le personnage le plus émouvant de Couleur de l'incendie, c'est Paul, le fils handicapé de Madeleine Péricourt, le corps blessé mais l'âme hypersensible, et je l'ai interprété comme ça, comme une espèce de double finalement d'Edouard, la gueule cassée d'Au revoir là-haut. D'où vient chez vous, Pierre Lemaître, cette attention aux êtres physiquement fracassés?
De mon père. Mon père était un homme handicapé. Et je crois que je tiens un certain sens du tragique et un peu d'humour aussi de mon père, qui était un homme très drôle et un homme contrefait. Et cette tragédie personnelle, je crois que je l'ai remise dans mes livres. C'est toujours un peu difficile pour moi d'en parler, parce que ce sont des choses émouvantes. Et puis il y a aussi autre chose pour répondre à votre question, c'est que je voulais faire une suite avec quelque chose d'un petit peu esthétique. Le premier livre se terminait par une chute. Je trouvais satisfaisant pour le lecteur de voir le livre suivant commencer aussi par une chute, une manière de faire un clin d'œil en permanence aux lecteurs qui suivent mon travail.
Je peux me permettre de vous demander ce qu'étaient les difficultés physiques de votre père?
Non, vous ne pouvez pas vous le permettre.
Donc vous avez le droit de ne pas me répondre.
C'est ça.
Parce que vous avez employé, excusez-moi, un terme que je n'avais pas entendu depuis très longtemps, qui est le terme de contrefait, qui est un terme qui dit avec pudeur, un handicap.
Je veux pas être discourtois, Yves.
Mais vous n'êtes pas discourtois, vous avez le droit d'être pudique.
Non. En l'espèce, mon père était scoliotique, et donc il était contrefait. C'était un homme très petit. C'était un homme, extraordinairement généreux, avec beaucoup, beaucoup d'humour. Mais effectivement, ce handicap a pesé lourd dans sa vie et pesé lourd dans la mienne. Et on le retrouve, je crois, dans mon travail. Ouais.
Nous faisons gagner Couleur de l'incendie, le nouveau roman de Pierre Lemaître, ce matin, à nos auditeurs, publié bien entendu chez Albin Michel et dédicacé par l'auteur, si vous répondez à la question que vous pose Bernard.
Je dois dire que j'ai rarement fait gagner un livre avec autant de plaisir, Pierre Lemaître. Alors, la question, quel est le prénom de l'héros principale de Couleur de l'incendie? Elle a un petit indice, Madeleine ou Léonce?
C'est vraiment un tout petit indice. Réponse au 32-10, on marque une courte pause et on retrouve Pierre Lemaître, invité exceptionnel de Laissez-vous tenter ce matin sur RTL, première radio de France.
RTL Matin,
Laissez-vous tenter. RTL Matin,
Laissez-vous tenter.
Avec Yves Calvi.
Nous sommes toujours en votre compagnie, Pierre Lemaître, pour la parution chez Albin Michel de Couleur de l'incendie. Couleur de l'incendie, il faut toujours répéter le titre. C'est le deuxième volume d'une trilogie que vous avez brillamment débutée avec Au revoir là-haut, prix Goncourt 2013. Comme dans votre roman précédent, l'arrière-plan historique est riche et passionnant. Parlez-nous de cette période qui va finalement de 1927 à 1933.
Alors d'abord, c'est une période de menace, c'est une période de déconstruction. C'est-à-dire que le monde auquel on croyait et qui va être remplacé par un monde nouveau, en fait ce monde nouveau va être une déception. On va déconstruire un certain nombre de choses, on va commencer à déconstruire l'Europe, et on voit en toile de fond de cette intrigue les premières lueurs de l'incendie qui va embraser l'Europe à partir des années 30. D'ailleurs, une partie du roman se passe à Berlin en 1933. C'est une période extraordinairement violente. On n'imagine pas, quand on lit les journaux de l'époque, on n'imagine pas à quel point la violence était une violence physique. Les gens se tapaient dessus dans la rue, hein, les croix de feu, Action française, quand ils descendaient dans la rue, ils se tapaient dessus. Hein. Ça rigolait pas. C'est une période aussi, je dirais, d'incertitude. C'est une période où on ne sait pas vers quel monde on va. On voit bien arriver cette guerre. On la voit arriver de loin, mais personne ne veut y croire. Ça ressemble aussi un petit peu aux temps actuels. On a l'impression que la guerre précédente...
Et ça, c'est une intention. Vous avez voulu y mettre des résonances avec le monde d'aujourd'hui.
Oui, mais ça n'est pas la même chose. Les résonances et la ressemblance ne sont pas la même chose. On ne peut pas dire qu'aujourd'hui, c'est comme les années 30. Ça ne marche pas. Historiquement, c'est idiot. En revanche, ce qui est frappant, c'est de voir qu'en prenant n'importe quelle période, on trouve toujours des résonances avec aujourd'hui. J'aurais fait un roman qui se passe, je ne sais pas, en Italie en 1714, on trouverait aussi des résonances. Maintenant, elles sont simplement un peu plus amusantes, peut-être, en prenant la France des années 30, parce qu'on y trouve des choses qui nous troublent un peu. La fraude fiscale, par exemple, la vénalité de la presse. Pardonnez-moi, je m'adresse à des journalistes, donc je fais attention. Voilà, je vais peser chaque phonème.
Nous sommes parfaitement vénaux, hein. J'ai même relevé cette phrase, le journaliste, c'est être capable de discourir sur un sujet auquel on ne connaît rien et de décrire un événement auquel on n'a pas assisté.
Oui, ça devrait être normalement marqué au fronton de l'école de journalisme, ça, n'est-ce pas ?
Parler savamment le soir de quelque chose qu'on ne connaissait pas le matin. C'est une autre formulation de...
Je vous en laisse la paternité.
Vous n'êtes pas tant, donc, avec Le Monde de l'Argent, Les Riches, Le Capital, Couleur de l'Incendie, c'est un roman politique, voire engagé ?
C'est un roman social. Oui, je crois que c'est un roman engagé. Je crois que je n'avance pas masqué dans mes livres et que n'importe qui lisant mes livres sait ce que je pense du monde et comment je le vois. Maintenant, je fais des histoires avec des personnages qui ont des côtés d'ombre et des côtés de lumière et je laisse le lecteur faire son boulot. Moi, mon travail, c'est de raconter des histoires et le travail du lecteur, c'est de tirer la morale qui lui convient sur les personnages. Il peut très bien me dire qu'il aime ou qu'il n'aime pas l'attitude de Madeleine. Chacun peut en discuter. Moi, mon boulot, ça n'est pas de dire au lecteur ce qu'il doit penser. C'est d'essayer de lui donner du plaisir.
Alors, ce plaisir, il vient aussi de toute cette galerie de second rôle que vous brossez, comme vous l'aviez fait dans Au revoir là-haut. Quel est celui pour lequel vous avez une affection toute particulière dans Couleur de l'incendie ?
Alors moi, j'ai une affection particulière pour une Polonaise qui s'appelle Vladi et qui ne parle pas un mot de français.
Oui. Et la nurse de Paul, le fils de Madeleine.
Oui, tout à fait. Alors, elle est très drôle parce que c'est une nymphomane. C'est une nymphomane pleine de santé.
Oui, hein, oui.
Elle est joviale, drôle. Elle est pleine de santé. Et elle
ma mère généreuse.
Oui, mais comme c'est élégamment suggéré. Et cette fille ne parle pas un mot de français pendant tout le livre et pendant toute sa vie, elle ne parlera pas un mot. Et je me suis amusé avec ma traductrice polonaise. Ah, oui, j'ai fait appel à ma traductrice.
C'est la question qu'on se pose. À chaque fois qu'elle parle, c'est en polonais. On se dit, mais il a mis n'importe quoi, Pierre Lemaitre.
Non, d'abord parce que je parle très bien le polonais, d'abord. Non, je plaisante. Non, j'ai fait appel à ma traductrice en polonais et je lui ai demandé donc de me traduire des phrases. Et je me suis beaucoup amusé à mettre le lecteur dans la même situation que les personnages.
Alors,
on l'écoute, elle parle en polonais, on ne comprend pas ce qu'elle dit, on est obligé de le déduire. C'est assez amusant.
L'humour, ça reste important dans votre littérature.
Ah oui, ça reste essentiel parce que moi, j'aime mon métier, je le fais avec appétit, je le fais avec jubilation. Et cette jubilation, j'essaie de la faire passer dans l'écriture, d'abord parce que j'en ai besoin au moment où j'écris, et puis parce que c'est ma manière à moi d'établir une connivence, un clin d'œil, un contrat au fond souriant et j'espère intelligent avec mon lecteur.
Alors l'humour, il y a notamment une scène à mourir de rire quand les filles jumelles de Charles Péricourt, qui est donc le frère de Marcel, des filles qui sont laides comme un pou, ils ne savent pas quoi en faire ou à qui les refiler, elles sont présentées à un possible prétendant. Est-ce que je peux vous demander, je sais que vous aimez ça et que vous le faites très bien, Pierre Lemaitre, est-ce que vous pouvez nous lire justement un extrait de cette scène, page 272 je crois.
Il se rendit compte qu'elles étaient hideuses, elles souriaient
de... C'est
le père qui parle. Qui les regardait, dit, elles souriaient de toutes leurs fausses dents, les joues et la poitrine creuses, les genoux maigres, excitées par la venue de ce prescendant. Palpitantes comme des volailles, elles laissaient s'échapper de leurs lèvres entrouvertes des petits rires étranglés qui trahissaient un désir sexuel rendu obscène par l'incroyable ressemblance qui dupliquait leur laideur. Comment Charles avait-il fait pour ne pas s'en rendre compte ? Son aveuglement d'hier, comme la révélation d'aujourd'hui, s'expliquait simplement. Il les aimait terriblement. Il aurait voulu chasser ce jeune homme, presser ses filles contre lui. Cette découverte poignante l'aurait fait pleurer. Elles étaient ridicules. Il eut envie de mourir.
Et on voit bien ce balancement entre le cocasse, l'humour, la férocité, et puis à la fin, cette touche de tendresse.
Même le tragique ne tient et ne peut émouvoir le lecteur qu'à la condition de trouver ses propres contre-feux, en quelque sorte. Et c'est vrai que plus on est tragique, plus on a envie, au fond, de désamorcer le tragique par l'humour. Là, en l'espèce, ce que vit cet homme, c'est une tragédie. Il se rend compte qu'il aime désespérément ses filles et qu'il se rend compte qu'elles sont effroyablement laides. Je me suis vraiment beaucoup amusé.
Entre autres défauts, nous aussi, entre autres défauts que nous avons, nos journalistes, on veut toujours essayer d'avoir un coup d'avance, vous savez. Alors, est-ce que le troisième volume que vous avez annoncé est déjà en cours d'écriture ?
Oui, il est en cours d'écriture. Je ne sais pas encore comment il va s'appeler, mais il est en cours de préparation et il va se dérouler pendant la Drôle de Guerre et s'achever pendant l'Exode. En fait, l'idée, si vous voulez, c'est que cette trilogie commence à la fin de la Première Guerre et s'arrête vraiment au seuil de la Seconde Guerre. Trois décennies, les années 20, les années 30, les années 40. Et nous allons retrouver dans le troisième tome une petite fille qui s'appelle Louise, qui avait 10 ans dans Au revoir là-haut, qui était la petite fiancée de Édouard Péricourt, la gueule cassée.
Qu'on voit dans le film aussi.
Absolument, oui. Et cette petite fille qui a 10 ans a maintenant 30 ans, en 1940, et elle va avoir une affaire personnelle assez un peu policière qui va se terminer dans cette espèce de cataclysme, ce moment extraordinaire où un pays entier est saisi par la panique à l'approche des nazis.
Ce qui m'épate quand je vous écoute, c'est l'enthousiasme avec lequel vous parlez de votre travail, de votre écriture.
J'ai beaucoup de chance.
Un écrivain heureux, ça fait tellement de bien.
Oui, j'ai conscience d'être un privilégié. C'est un métier difficile dans lequel il n'y a pas beaucoup d'élus. Donc je fais partie des gens qui ont trouvé des lecteurs, qui vivent de leur travail. Il y a énormément d'écrivains qui ont beaucoup de peine à vivre, beaucoup de peine à publier. Et donc quand on a la chance de faire partie de ceux qui ont su tirer leur épingle du jeu ou qui ont eu la chance de pouvoir la tirer, bien on est reconnaissant, on essaie de donner un petit peu au monde ce qu'il nous a apporté.
Quand on a autant de lecteurs, on a aussi des familles. Et alors je m'amusais en vous écoutant là et en évoquant finalement les trois tomes à venir. Je me disais, mais en fait, il y a des générations qui sont en train de se mettre en place. J'essayais de revoir moi-même mes parents et mes grands-parents dans l'histoire que vous nous racontez, qui est l'histoire de notre pays et qui est aussi une histoire du monde. Vous jouez aussi avec ces sentiments au sens noble du terme.
Oui,
la projection.
Oui, c'est ça. Oui, on joue justement cet emboîtement qui est fait au fond d'une sorte de mémoire individuelle qui est incluse dans la mémoire collective.
Pierre Lemaître, restez avec nous dans un instant. Nous parlerons cinéma avec le succès de l'adaptation par Albert Dupontel de votre prix Goncourt Au revoir là-haut. Et puis Stéphane Boutsock va nous emmener dans le Nord où il a suivi la tournée de lancement triomphal, il n'y a pas d'autre terme, de la prochaine comédie de Danny Boone, La Ch'tite Famille. À tout de suite.
RTL Matin.
Laissez-vous tenter.
Avec Yves Calvi.
Pierre Lemaître est toujours avec nous jusqu'à 9h30. On va parler maintenant cinéma. Un mot d'abord sur le succès du film Au revoir là-haut, réalisé par Albert Dupontel. D'après votre prix Goncourt, Pierre Lemaître, je parle sous le contrôle de Stéphane Boutsock. Mm-hmm. La barre des 2 millions d'entrées est maintenant passée. L'auteur que vous êtes, est-il heureux et soulagé là aussi du succès de son film ou du film que son camarade Dupontel a mis en scène.
Oui, je suis très, très heureux. Comment ne pas être heureux? Albert a réussi à faire une adaptation parfaitement réussie. C'est un film grand public, intelligent, esthétique. C'est un très beau film, très émouvant. Il a réussi à être, je dirais, parfaitement fidèle à l'esprit du roman en changeant énormément de choses et en se montrant, comme il sait le faire, très créatif. Et 2 millions de personnes sont venues le voir. C'est une formidable réussite. Oui. C'est une bonne nouvelle pour le cinéma français de savoir qu'il n'y a pas que les comédies qui peuvent attirer le grand public. C'est une bonne nouvelle, je crois.
Si Au revoir là-haut a été un des grands films de l'année 2017, La Ch'tite Famille sera le premier événement 2018 de notre année cinéma. La nouvelle comédie de et avec Danny Boone sort le 28 février avec RTL. Stéphane, vous avez accompagné Danny Boone sur ses terres des Hauts-de-France pour le lancement de la tournée de son nouveau film.
C'était le week-end dernier, notamment à L'Homme, près de Lille, au Kinépolis, le plus grand cinéma de France. 23 salles, 7000 fauteuils. Une foule impressionnante attend Danny et l'équipe du parking à l'entrée de la salle. Plus de 2500 personnes sont là pour voir le film, mais aussi le voir lui parler, le toucher, prendre une photo. Du vendredi soir au dimanche soir, de Villeneuve-d'Ascq à Berck-sur-Mer, de Douai à Dunkerque, en passant par Valenciennes et Coquel, la caravane de La Ch'tite Famille aura traversé une vingtaine de villes avec partout la même réaction du public quand on lui demande ce que représente Danny Boone pour la région.
Ça représente le Nord. La gaieté.
Il parle comme nous, il parle comme Shaw, il parle un petit peu comme Shaw.
C'est un emblème pour le Nord, quoi. Oui, fier de lui, oui, on aime bien, oui.
Il est très populaire, de toute façon, on le voit déjà ici, tous les gens qu'il peut y avoir, ils sont venus pour Danny Boone, je pense.
Ça montre qu'il aime bien sa région et qu'il ne rejette pas sa région comme certaines personnes et qu'il reste fidèle au Nord. Je trouve que ça nous met de la bonne humeur, surtout dans le Nord où il ne fait pas toujours très beau.
Il est rigolo, je l'aime bien parce qu'il fait des blagues, c'est cool.
C'est un bon critère.
Ben oui.
Alors, on l'entend, l'attachement du public pour Danny Boone, 10 ans après Bienvenue chez les Ch'tis, en fait, n'a pas faibli.
Non, ça n'a jamais faibli. La Ch'ti de famille sortira d'ailleurs dans les Hauts-de-France dès le 23 février, donc 5 jours avant le reste du pays. Cette fois, Danny signe un film plus tendre, plus émouvant sur les racines, la famille, le souvenir de là d'où on vient. Démarche sincère qui explique sans doute cet attachement réciproque avec le public.
Au fil des années, j'ai essayé de toujours rester fidèle à ma région, à ce que je suis, à la mentalité de la région. Les gens ici sont très chaleureux, pas prétentieux. Il y a une qualité de cœur, il y a une grande humanité et une grande tendresse, en fait. Je pense que c'est ce que j'essaie de montrer dans mes films. Et les gens le reçoivent comme ça, le ressentent comme ça, et c'est très important.
Et puisqu'on parle d'humain, de tendresse, écoutez cette dame, elle s'appelle Catherine, elle était postée au tout début des 700 mètres, je dis bien 700 mètres de tapis rouge vendredi soir. Ce qu'elle dit résume ce que les Ch'tis penchent de leur idole.
Je l'adore, et puis comme je parle beaucoup à toi aussi, et je voudrais tant pouvoir faire une photo avec lui, et c'est vrai que mon billet, il a été payé pour mon Noël par mon fils. Autrement, je n'aurais pas pu venir... Vu que j'ai pas beaucoup d'argent et c'est mon fils qui me l'a payé pour mon Noël. S'il veut bien prendre une photo avec moi, je serai très contente. Ça serait mon beau cadeau de Noël.
Alors, autre cadeau pour Catherine et les centaines de gens venus voir la Ch'ti de famille en avant-première, la présence évidemment de l'équipe du film, notamment celle qui joue à nouveau la maman de Danny à l'écran, Lynn Renaud. Je lui ai demandé de m'expliquer la persistance de ce phénomène Boone.
C'est bon. Vous savez, je sais comment Johnny se comportait avec ses fans. Danny, c'est exactement la même chose. C'est dans la nature. On ne peut que respecter ça. Danny ne triche pas. Je ne triche pas. Depuis toute ma vie, depuis la première fois où on m'a demandé, j'ai reçu du courrier, j'ai toujours répondu à la main. C'est la même chose, Danny. Ils nous aiment parce qu'on les aime, je crois.
Stéphane Danny Boone, lui, comment vit-il cette communion, finalement, avec son public ?
Touché, amusé, pas du tout blasé, je peux vous dire qu'il a consciencieusement arpenté l'intégralité du tapis rouge, 1h30 au total. Question, une telle fidélité du public induit-elle aussi une forme de responsabilité à ne pas le décevoir ?
Oui, bien sûr, pour la région, pour les gens, ma mère, il y a toujours plus d'émotions quand je suis ici, ouais, bien sûr. Ouais. Ou quand je rencontre des gens du Nord ailleurs, dans d'autres régions ou dans d'autres pays. C'est toujours très émouvant. Il y a une identité très forte. Et c'est la seule région, d'ailleurs, où il y a une identité aussi forte, sans revendication d'indépendance ou de... Parce que les gens sont assez accueillants. Il faut garder cette mentalité-là, d'ailleurs. Il faut être très vigilant, à ne pas partir dans les extrêmes. Il faut garder cet amour et cette générosité de cœur pour tout le monde, quoi.
Petit message social quasi politique, hein, au passage. La tournée Ch'ti ce week-end a d'ailleurs passé par Hénin-Beaumont, une des villes administrées par le Front National. Message reçu apparemment quelques minutes plus tard. Ça, c'était l'accueil dans une des 5 salles qui projetaient le film.
Dites-nous, au fait, est-ce qu'elle a eu son bisou et sa petite photo, Catherine ?
Ah bah, écoutez la réponse.
Oh purée, je l'ai embrassé en plus. Ah, je l'aime trop. Je n'ai tombé dans les pommes, mais les gants, ils font ding ding ding.
Ah, Stéphane.
Super. Ah, je suis très contente.
Vous êtes infernale, il y avait un suspense, parce que Pierre Lemaitre et moi, on se dit, oh là là, est-ce qu'elle a eu son...
Oh, ouais. Je veux dire, elle était la première à la porte. Je veux dire, il ne pouvait pas la louper, hein, Catherine. La tournée de lancement de la Ch'ti de famille se poursuit dans l'Est. Il y aura 120 villes et 200 salles au programme d'ici la sortie. Donc, on le rappelle, 23 février dans les Hauts-de-France, 28 février partout ailleurs, et ce sera un événement RTL.
Et on salue bien entendu notre camarade Jean-Philippe Janssen.
Absolument.
De l'équipe des Grosses Têtes.
Qui est dans le film.
Qui est dans le film, bien entendu.
Pierre Lemaitre, écrire une comédie, ça vous tente ?
Je ne suis pas sûr que je saurais le faire.
Vous êtes capable d'humour, on l'entend.
Oui, mais alors être capable d'humour dans une histoire et de là à faire une comédie, c'est-à-dire qui n'est que cela, du début à la fin, je ne suis pas certain que ce soit mon registre. J'essaie de me tenir, moi, dans le registre qui est le mien, dans lequel j'ai encore des marges de progression importantes, comme vous le savez. Et donc, voilà, j'essaie de me tenir à ce que je sais faire.
Et dans un instant, l'auteur de Couleur de l'incendie, Pierre Lemaître, vous dira si vous avez gagné son livre dédicacé.
RTL Matin.
Laissez-vous tenter.
Avec Yves Calvi.
Dites-moi, Pierre Lemaître, quel est le prénom de l'héroïne principale de Couleur de l'incendie, s'il vous plaît ?
Elle s'appelle Madeleine.
Très bien.
C'est proustien, n'est-ce pas ?
Bien entendu que
vous
c'est proustien.
Proust.
Exactement. Et si vous nous avez appelé, vous qui nous écoutez, au 3210, eh bien vous avez donc gagné ce dernier roman de Pierre Lemaître. Merci d'être venu passer.
Merci beaucoup de votre invitation.
On est toujours heureux de vous accueillir avec toute l'équipe.
Merci
beaucoup. On va tout de suite retrouver notre camarade Julien Courbet. Bonjour Julien.
Bonjour, et vous allez voir que ça va être beaucoup moins proustien. Là maintenant, pendant 1h30, parce que ça va être moins proustien. On vous laisse le côté Proust et nous allons faire autre chose maintenant. C'est de faire de l'efficacité.
Je sens comme une forme de dépit, je
mais
ne sais pas.
Mais pas du tout, oh là là. Écoutez, Gervais Pouchol, s'il n'est pas proustien,
lui, Pouchol, c'est tout Proust, moi je peux le dire.
C'est le roi des Proust, c'est comme ça qu'on l'appelle. Merci beaucoup, mon
Yves. Bonne émission.
Vous écoutez RTL.